Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité.
La radio radieuse,
voilà. Et c'est Jeudi Noir qui démarre là pour ce soir, avec une présentation, une discussion alors d'un bouquin publié aux éditions Agone, mais il y a déjà quelques années. Une dizaine d'années pour être exact. Le bouquin s'appelle Orwell ou Le pouvoir de la vérité. C'est une traduction d'un livre de James Conant qui a été publié en 2000 en anglais. Bon, c'est un des livres, effectivement, un des livres de référence de l'émission. On l'a jamais présenté tel quel, même si on a déjà parlé de Orwell très très souvent. Vous venez d'écouter, évidemment, dans la cohérence global qui caractérise cette émission, le titre Conan le Barbare de M. Nomizd de 82. Et donc, Michel, tu voulais nous parler de ce bouquin-là. Alors, bon, ça fait longtemps que tu veux nous en parler et ça fait longtemps. Et en même temps, est-ce que
j'ai été cancel de nombreuses fois.
Voilà, t'as été cancel de nombreuses fois, et en même temps cette réflexion autour de des conceptions d'Orwell sur la notion de vérité objective, qui a été forgée effectivement dans son expérience des guerres contre le totalitarisme en Espagne notamment, prend peut-être aussi une espèce de résonance un petit peu particulière, là, vu le contexte actuel, et vu les espèces de déluges de propagande martiale auxquelles nous sommes exposés depuis maintenant deux semaines. Alors bon, évidemment, on peut pas comparer forcément tout et n'importe quoi, mais il y a une petite résonance quand même, peut-être, de ce questionnement. Donc d'abord, peut-être, tu peux peut-être nous expliquer ce qui te motivait dans la présentation de ce livre-là. Je rappelle Orwell ou Le pouvoir de la vérité de James Conant.
Ce matin, je regardais vite fait sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur une phrase du ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, qui déclarait « Nous n'avons pas attaqué l'Ukraine ». Alors, et là on se dit « Bon, d'accord, en fait, Orwell, 84, c'est pas de la science-fiction. C'est une description réaliste, un peu satirique, mais pas trop, en fait, de ce qu'on peut observer assez régulièrement dans l'histoire du monde. Mais peut-être avant, je voudrais revenir sur le statut d'Orwell en France, qui est un peu compliqué, parce que d'un côté, c'est un auteur qui est très connu, qui est lu, qui est aussi reconnu. Il vient d'être édité en Pléiade, ce qui est un petit peu le sacre des éditeurs français. Il a été édité donc et retraduit chez la Pléiade à l'occasion du passage dans le domaine public de ses œuvres. Et en même temps, par exemple, le préfacier Jaworski, qui est pas l'auteur de science-fiction, hein, de fantasy. Jaworski dit c'est un auteur intéressant, mais c'est un piètre penseur. Et le fait est qu'Orwell, en tant que penseur politique en France, a souvent été peu reconnu. Il a soit été utilisé dans la propagande anticommuniste la plus vulgaire, soit il a pu être utilisé par la propagande soviétique la plus vulgaire, mais globalement, en philosophie politique, par exemple, il a quasiment eu, pendant très longtemps, aucun écho. Et il semble que c'était un auteur qui était pris pour un peu simplet. C'est-à-dire quelqu'un qui, il nous dit le pouvoir ment. Mais tout le monde sait que le pouvoir ment, enfin mon petit Georges, qu'est-ce que tu nous apprends exactement? Non, le pouvoir crée son propre monde, sa propre vérité, et c'est vachement plus intéressant. Et là-dessus, à cet égard, disons, Orwell a été un peu évacué, je pense, du champ de la réflexion politique, et ce qui a intéressé chez lui, c'est pas forcément les philosophes, c'est plutôt parfois éventuellement des militants qui sont concentrés sur certains aspects un peu techniques des descriptions que fait Orwell, le télécran,
la surveillance,
et tous ces trucs-là, qui, pour le coup, étaient sans doute, en effet, mieux thématisés ailleurs. Mais justement, le bouquin de Conant va s'inscrire dans un autre truc, et il va essayer de montrer comment Orwell en fait pense le totalitarisme et quelles sont, disons, les idées essentielles qu'on a sur le monde qui peuvent nous aider à résister au totalitarisme, et quelles sont ces idées que le totalitarisme va attaquer. Et donc, ça lui donne une autre dimension philosophique. Alors, le bouquin de Conant...
Et juste concrètement, oui, là-dessus, en fait, c'est ce qui est central chez Orwell, c'est l'attachement à l'idée qu'il existe une vérité objective, c'est-à-dire indépendante des points de vue. C'est-à-dire que personne ne peut décider de ce qui est vrai ou pas. Ce qui est vrai, c'est ce qui correspond à la réalité. La réalité ne dépend pas de nous, donc elle n'appartient à aucun propagandiste, à aucun dictateur, à aucun parti. Et c'est absolument crucial de maintenir cette notion de vérité objective, notamment en situation de conflit. Voilà.
C'est ça.
Et il nous précise effectivement que les totalitarismes, au fond, ce qui les définit, une des manières de les définir, c'est justement qu'ils cherchent, est totalitaire celui qui cherche justement à évacuer cette notion de vérité objective.
Entre autres, ouais. Mais effectivement, mais ça va même plus loin pour Orwell et pour Conant. Mais effectivement, ce débat-là, il va être pris en France, en frais, entre finalement, en quelque sorte, deux camps. Le camp qui va dire le pouvoir cherche à nous imposer la vérité et donc il faut se méfier de la vérité de manière générale. C'est-à-dire que quiconque prétend détenir la vérité est un totalitaire en puissance. Et plus loin, quiconque prétend pouvoir établir des critères de vérité ou même revendique, comment dire, l'usage de critères de vérité est un totalitaire en puissance. Et donc, il faut plutôt aller vers des idées du type interpréter des interprétations, décrire des descriptions, redécrire
faire
des descriptions.
Faire des hypothèses.
Faire des hypothèses, ça supposerait qu'elles soient. Enfin, ça supposerait éventuellement que les hypothèses sont vérifiables, et donc là, tu peux retomber vrai, vite fait sur la vérité. Mais, enfin, sur la notion de vérité. Donc, tu as cette espèce de débat. Alors, qui en France est toujours resté, je dirais, un peu éloigné de la logique, de philosophie, comment dire, qui s'attache à une notion de vérité définie de manière un peu, comment dire, qui ne sera pas historique. Aux États-Unis, d'où James Conant est originaire, les choses sont un peu posées différemment, parce que l'interlocuteur privilégié de Conant, c'est un philosophe américain qui s'appelle Richard Rorty, qui est mort au début des années 2000, 2007, je ne sais plus, enfin, qui est mort au début des années 2000, et qui va en quelque sorte, alors ça j'en parlerai pas trop, parce que c'est un débat un peu technique, hein, je ne vous le cache pas, donc si vous aimez bien la philosophie un peu technique, qui s'attache à démonter des arguments pièce par pièce, jetez-vous dans le bouquin, sinon peut-être pas. Parce que, en quelque sorte, Conant, James Conant va reprendre toutes les thèses de Rorty, de manière générale, et en particulier la lecture que fait Rorty de 1984 d'Orwell, et va essayer de montrer que cette lecture est fausse. Et que d'une certaine manière, on ne peut pas lire Orwell, comme le prétend Rorty, comme si le concept de vérité objective n'avait aucune importance dans sa pensée et dans son roman.
Donc c'est même tout l'inverse.
C'est même tout l'inverse. Oui. Donc il y a ce débat-là. C'est, en fait, tout le bouquin est autour de ce débat. Ensuite, malgré tout, pour notre, comment dire, si on n'est pas forcément adepte de ce type de débat philosophique, qui sont effectivement un peu ardus, un peu techniques, et si on n'est pas philosophe, pas forcément utile, il y a aussi toute une caractérisation des idées d'Orwell qui est vraiment intéressante et qui, à mon avis, est très très éclairante. Et je commencerai par, en quelque sorte, ce que Conant appelle le passage focal. C'est-à-dire les moments où Orwell a énormément écrit, il écrivait pour manger aussi, parce qu'il se faisait payer pour les articles, et donc il s'est beaucoup, beaucoup répété. Il a pas arrêté de s'auto-plagier. Ce qui fait qu'il y a certaines formules choc auxquelles il tenait, qui reviennent très, très souvent dans son œuvre, et qu'on peut repérer assez facilement ce à quoi, finalement, il tenait le plus. Et donc, James Conant va isoler deux passages, qu'il va appeler des passages, le passage focal, où il estime qu'Orwell définit des idées essentielles pour lui, et en particulier des idées essentielles si on veut comprendre 1984. Et donc, Orwell, à un moment, déclare, par exemple, que la bonne prose est comme un carreau de fenêtre. Et il va dire que, justement, écrire une bonne prose, pour écrire une prose de ce genre, il faut s'efforcer constamment d'effacer sa propre personnalité. Alors ça, c'est un premier truc, et le deuxième passage dont Conant va faire un peu un pivot dans son interprétation de George Orwell, c'est « Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. C'était son commandement ultime et le plus essentiel. Le cœur de Winston, personnage principal de 1984, défaillit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui. » À la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion, aux arguments subtils qu'il serait incapable de comprendre et auxquels il pourrait encore moins répondre. Et cependant, c'était lui qui avait raison. Ils avaient tort, et il avait raison. Il fallait défendre l'évident, le bêta et le vrai. Les truismes sont vrais. Cramponne-toi à cela. Le monde matériel existe, ses lois ne changent pas, les pierres sont dures, l'eau est humide, et les objets qu'on lâche tombent vers le centre de la Terre. Avec le sentiment qu'il s'adressait à O'Brien, qui est l'antagoniste de Winston,
une espèce de commissaire politique,
l'intellectuel organique du parti, qui va torturer Winston pour le ramener au bon sens du parti. Donc avec le sentiment qu'il s'adressait à O'Brien, et aussi qu'il posait un axiome important, il écrivit « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Si cela est accordé, tout le reste suit. » Donc à partir de ces passages-là, Conant va établir une espèce de... Alors c'est un peu compliqué parce que ça s'engage dans débats philosophiques un peu abstrus, mais en quelque sorte, pas une philosophie de George Orwell, parce que George Orwell n'a jamais eu la prétention d'être philosophe. C'était un penseur politique, il ne réclamait pas davantage. En quelque sorte, quelques principes, quelques remarques de lecture d'Orwell. Alors, il y a 7 principes, je vais vous les lire. Je vous épargnerai les 7 principes correspondants, qui sont ceux des philosophies diverses auxquelles Conant et Rorty se confrontent. Remarque 1. Donc, le sentiment que le concept même de vérité objective disparaît du monde est terrifiant. Et il doit l'être. Remarque 2. Les faits existent indépendamment de nous, et nous pouvons plus ou moins les découvrir. Remarque 3. Il faut sans cesse lutter pour effacer les distorsions qui affectent notre vision des faits, et qui sont dues à notre personnalité aussi bien qu'aux diverses formes de préjugés et d'illusions sur soi, dont tout observateur est nécessairement victime. Remarque 4. Certains problèmes moraux ne sont pas insolubles. Il est possible de voir l'immoralité innommable de certaines actions. Donc là, on est passé d'une idée de... Est-ce qu'on peut arriver à connaître certains faits, à l'idée d'une moralité qui ne dépendrait pas que nous. On pourrait évaluer ces faits. Remarque 5. Il y a des vérités historiques objectives. Donc là, on passe au niveau de l'histoire. On n'est pas simplement au niveau de « les pierres sont dures ». Les faits historiques sont indépendants de ce que nous disons ou croyons qu'il est arrivé dans le passé. Ça, c'est par rapport à un pouvoir qui voudrait justement modifier le passé. Et on s'aperçoit encore aujourd'hui que le pouvoir a intérêt à essayer de définir le passé comme il veut que nous, en quelque sorte, nous donner une image à laquelle il voudrait qu'on adhère. Donc, remarque 6, il existe un lien important entre politique et littérature. La littérature constitue un moyen de combattre un certain type de corruption du langage, qui facilite la tâche de ceux qui cherchent à cacher la vérité. Les ennemis de la liberté intellectuelle cherchent donc à tenir la question « vrai ou faux » aussi loin à l'écart qu'ils le peuvent quand ils discutent aussi bien de politique que de littérature. Donc là, on monte dans les tours, c'est-à-dire que, globalement, non seulement il y a des faits objectifs, mais il y a aussi des faits moraux, il y a des faits historiques, nous pouvons les juger. Et ceux qui voudraient nous faire croire qu'il n'y a pas de fait de cette nature, en quelque sorte, sont des ennemis de la liberté intellectuelle.
Et la liberté tout court.
Et la liberté tout court, par conséquence. Remarque 7. Le personnage principal de 1984 est le dernier être humain en Europe. Ça, c'est une citation littérale d'Orwell. Le seul gardien qui reste de l'esprit humain. Un libéral, alors ici au sens américain du terme, pas du tout au sens français, ça n'a rien à voir avec un capitaliste. Un libéral, c'est quelqu'un de gauche, voire de très à gauche aux États-Unis. Un libéral est quelqu'un qui pense que l'esprit humain ne survivra qu'aussi longtemps que nous concevrons, la vérité comme quelque chose qui est à découvrir et non comme quelque chose que nous fabriquons selon les circonstances. Donc ici, l'idée, c'est que les faits ne sont pas uniquement, ne sont pas seulement des constructions. Il y a quelque chose qui est indépendant de l'esprit humain. Et si on renonce à cette idée, pour quelqu'un d'Orwell, on renonce à l'essentiel, on a déjà perdu. La pire chose que nous puissions faire, ce n'est pas être cruel, mais saper la capacité de quelqu'un à concevoir la vérité en ces termes. Alors ici, j'y reviendrai sans doute. Derrière cette petite phrase, il y a un fait important. C'est que justement, pour Orwell, le totalitarisme ne se contente pas de... cacher ou de déformer les faits. Le totalitarisme, en quelque sorte, c'est une entreprise qui vise à nous rendre incapables de concevoir qu'il puisse y avoir des faits.
Indépendant de
notre point de vue.
Ouais.
Et qui nous retire les moyens intellectuels, qui détruit nos capacités cognitives, en quelque sorte.
Qui détruit les concepts, de réalité objective, de faits, de vérité objective.
C'est ça. Et qui nous rend incapables de, finalement, contredire un pouvoir qui nous dirait « les choses se sont passées ainsi le dimanche » et qui nous dirait « les choses se sont passées comme cela » le lundi, sachant qu'il pourrait y avoir une contradiction entre dimanche et lundi.
Alors, juste une petite remarque là-dessus.
Et dernière remarque 8, la bonne prose est comme un carreau de fenêtre, elle rend la vérité manifeste intégralement visible.
Ouais. Et en fait, alors, c'est remarquable de concision et en même temps de précision, moi je trouve, les principes que tu viens d'énoncer là. Après, en fait, ce que je trouve c'est toujours fascinant là chez Orwell, et puis c'est les interprètes comme celui que tu présentes ce soir, c'est qu'au fond, à partir de, ça revient à politiser à réellement politiser au sens fort des questions très anciennes, effectivement, sur la question de la vérité objective, sur la question du relativisme, est-ce que la vérité dépend des points de vue, est-ce qu'elle dépend des intérêts, est-ce que le pouvoir est-ce qu'on peut créer ou décider de ce qui est vrai ou pas. De toute façon, des questions qui sont aussi vieilles que l'histoire de la philosophie. Mais c'est vrai que avec Orwell et avec notamment les lectures de 1984 qui sont proposées par des gens comme Conant, la grande originalité, c'est de montrer qu'il s'agit de questions politiques absolument fondamentales, alors qu'elles sont rarement posées de cette manière-là. Dans la philosophie traditionnelle ou académique, c'est-à-dire que même chez des auteurs très soi-disant très très critiques, etc., type Foucault et compagnie, on reste sur une approche qui est très métaphysique, très généraliste, très parfois effectivement du point de vue de la philosophie de la connaissance. Et en fait, le propre d'Orwell, c'est de montrer qu'en fait ces questions-là sont au cœur en fait des questions de la pensée politique, et qu'en fait elles sont on est là sur les conditions même d'une existence politiquement libre au fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient incapable, ou à partir du moment où on renonce à rechercher par soi-même des faits indépendants de ce que va dire le puissant, qu'il s'agit en face à nous, ou que nous soyons nous-mêmes ce puissant-là, à partir du moment où on renonce à ça, où on n'en est plus capable, effectivement, c'est la fin de la liberté politique, c'est la fin de la liberté tout court, d'une certaine manière. Et qu'il y a un enjeu, que c'est pas simplement un enjeu pour philosophe, ou un enjeu conceptuel, ou un enjeu... Et évidemment, derrière ça, il y a l'expérience qu'Orwell a fait de manière très très personnelle de la propagande.
Alors, ce que tu dis, c'est amusant, parce que ça fait ça fait écho avec un passage du livre La Comprésente, Orwell ou le pouvoir de la vérité, de James Conant, puis chez Agon. C'est que justement, tu dis, c'est des questions philosophiques très très anciennes, et Rorty, le philosophe américain avec lequel James Conant débat, peut écrire d'une manière ou d'une autre, on écrit, nous savons tous que le débat philosophique sophistiqué est un truc à peu près inoffensif. Et Conant commente en disant, alors évidemment pour Orwell, c'est dans l'interprétation que fait Rorty d'Orwell, c'est important, mais Orwell, Conant commente, il dit, mais ce qu'Orwell met si puissamment en évidence, c'est que des éléments théoriques qui, dans un contexte donné, n'ont d'importance que purement philosophique, peuvent, dans un contexte différent, être liés à des modes de pensée et d'action susceptibles d'avoir des effets substantiels et nocifs sur les vies humaines.
Donc c'est pas que des questions de philosophes.
C'est pas que des questions de philosophes. C'est justement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il montre Orwell et nous montre à quel point certaines questions qui peuvent sembler abstruses et réservées à des philosophes dans des débats inoffensifs cantonnés à une université peuvent, dans certaines circonstances, avoir une importance. Il dit, par conséquent, on ne peut dire que certains éléments de théorisation philosophiquement sophistiqués sont des trucs à peu près inoffensifs sans examiner petit a. En vue de quels usages cette théorisation est proposée? Petit b, dans quel contexte institutionnel et politique ces usages sont mis en œuvre? Et petit c, quelles conséquences pratiques ces usages s'avèrent avoir dans ces contextes? Il ajoute, si ce n'est pas là un argument pragmatiste, je ne sais pas ce que c'est que le pragmatisme. Ouais. Sachant, bon là c'est un débat philosophique, on vous épargnera peut-être les tenants et aboutissants de ça, mais ici, on va couper pour vous épargner un petit peu et vous mettre un peu de musique. Mais ici, l'idée, c'est que tu veux dire un truc, Jean-Math,
ce que tu dis là, j'en veux juste un exemple, si tu veux, c'est qu'effectivement, ce que dit Conant là, c'est qu'en fait, Rorty a tort de penser que les débats philosophiques sont réservés à une bulle philosophique et que si on change le contexte, ils n'ont pas des conséquences tout à fait concrètes et éventuellement potentiellement dramatiques. Oui. C'est très simple, je ne sais plus quel était quel numéro oui. de principe. Là. Quand le fait d'affirmer qu'il existe des faits historiques, mais tout simplement, c'est tout sauf un débat, un débat universitaire abstrait, parce que ça veut dire que lorsque le KGB stalinien va chercher à effacer des gens, des photos d'archives, des militants révolutionnaires ou des dirigeants révolutionnaires bolcheviques qui ont été estimés et qui ont été éliminés par Staline plus tard, eh bien, au fond, il reste vrai que ces dirigeants ont été présents à tel endroit, à tel moment, et c'est quelque chose que Staline ou le KGB ou qui que ce soit n'a pas le pouvoir de modifier. Hein, et qu'il est fondamental de garder effectivement les capacités intellectuelles de comprendre cela. C'est-à-dire que de refuser l'idée, au fond, que Staline pourrait, ou le KGB, ou n'importe qui d'autre, ou Poutine, ou qui vous voudrez, aurait le pouvoir de décider de ce qui s'est passé ou pas. Hein. Donc effectivement, c'est tout sauf des questions de pure universitaire. Mmh. Et on fait une pause musicale. Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui redémarre sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et Jeudi Noir donc reprend pour sa deuxième partie autour d'un livre de James Conant, édité aux éditions Agone, qui s'appelle Orwell ou le pouvoir de la vérité, que nous présente donc du coup Michel ce soir. Et en toute cohérence avec le sujet que nous traitons et que nous discutons ensemble ce soir, on vient d'entendre The Undisputed Truth, I Hear the It Through the Grapevine. Excellent morceau donc de 1971. Alors Michel, tu nous disais donc avant par une présentation un peu générale du livre, là tu nous as présenté un peu les clés d'interprétation que Conant propose au lecteur de l'œuvre d'Orwell, de George Orwell, le grand romancier anglais du XXe siècle, auteur de 1984, de La ferme des animaux, ou de L'hommage à la Catalogne, entre autres. Et parmi ces clés de lecture que Conant défend et qu'il met en avant, il y a cette idée fondamentale chez Orwell d'un attachement à l'idée de vérité objective, c'est-à-dire d'une vérité qui existe, enfin, qui existe, d'une réalité qui existe indépendamment de nous et à laquelle on peut essayer d'avoir accès. Et d'après Orwell, c'est là finalement que se trouve le cœur de l'entreprise totalitaire, c'est-à-dire dans le souhait de détruire cette idée-là, ce concept de vérité objective, l'idée que nous n'avons pas et personne n'a le pouvoir de décider de ce qui est vrai ou faux. La cible intellectuelle, la cible mentale du totalitarisme, d'après Orwell, tel que le lit James Common, c'est ça. Alors on disait juste avant la pause, effectivement, que c'était aussi une conception qu'on trouve chez Orwell, qui a assez certainement été influencé par son expérience personnelle de la propagande, notamment au moment de la guerre d'Espagne, dans laquelle il s'est engagé à titre personnel et qu'il a pris un peu de plein fouet, propagande évidemment fascistoïde du côté franquiste, mais aussi propagande communiste et stalinienne de en face. Et dans les deux cas, effectivement, il a assisté à une espèce d'entreprise méthodique, systématique de destruction du concept de vérité. Et effectivement, c'est d'après des gens comme pour des gens comme Conant, que l'auteur du livre dont on discute ce soir, c'est sans doute ça qui est le plus important chez Orwell, peut-être plus que des aspects qu'on a tendance habituellement à mettre en avant sur l'idée de contrôle, de surveillance, etc. C'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller lire Orwell et y chercher des outils.
Tu fais comprendre. Allusion à la guerre d'Espagne et justement Conant cite un très beau passage d'Orwell. Orwell écrit. Parce que là, je pense que souvent, bon, lire Orwell, ça peut suffire. Tôt dans ma vie, je m'étais aperçu qu'aucun journal ne rapporte jamais correctement aucun événement. Mais en Espagne, pour la première fois, j'ai vu rapporter dans les journaux des choses qui n'avaient plus rien à voir avec les faits. Pas même le genre de relation vague que suppose un mensonge ordinaire. J'ai vu rapporter de grandes batailles là où aucun combat n'avait eu lieu. Et un complet silence là où des centaines d'hommes avaient été tués. J'ai vu des soldats qui avaient bravement combattu dénoncés comme des lâches et des traîtres. Et d'autres qui n'avaient jamais essuyé un coup de feu salués comme les héros de victoires imaginaires. J'ai vu les journaux de Londres débiter ces mensonges et des intellectuels zélés construire des superstructures émotionnelles sur des événements qui n'avaient jamais eu lieu. Ce genre de choses m'effraie car il me donne souvent le sentiment que le concept même de vérité objective est en passe de disparaître du monde.
C'est en vrai. T'as l'illustration parfaite de
bon,
ça.
C'est une clarté. Voilà. Et par exemple, il rapproche cette page d'une page de 84. En fait, pensait Winston, tandis qu'il rectifiait les chiffres du ministère de l'Abondance, il ne s'agissait même pas de falsification. La plupart des données traitées n'avaient pas la moindre relation avec quoi que ce soit dans le monde réel, même pas le genre de relation que comporte un pur mensonge. Et là, ces passages d'Orwell sont d'une clarté, bon, ça va quoi, on a compris, enfin je pense, mais enfin, malgré tout, on peut développer. Et justement, Orwell a dit à un moment que son but, ce qu'il avait vraiment voulu faire dans 84, c'était d'exposer les implications intellectuelles du totalitarisme. Mmh. Alors là, Conant va se livrer une explication des deux mots, intellectuel et totalitarisme. Et il cite une commentatrice, Judith Schlar, S-H-K-L-A-R, qui a écrit justement de quel genre de livre s'agit-il, en parlant de 84. En fait, ce n'est pas du tout une prophétie. Orwell veut pousser dans toutes ses conséquences logiques la manière de penser de ses camarades intellectuels. Donc pas mal d'intellectuels de gauche staliniens, de fait. À quoi ressemblerait un monde où toute pensée serait réellement l'expression de l'idéologie de la classe dominante ? Et je trouve qu'elle formule excellemment bien le truc. Voilà. À quoi ça ressemblerait ? Est-ce que le monde où beaucoup d'intellectuels, de philosophes nous disent que l'idéologie, c'est l'idéologie de la classe dominante ? Et qu'il n'y a que ça ? Et Orwell, en quelque sorte, se pose la question de mais à quoi ressemblerait réellement ce monde ? Et en quelque sorte, 84 serait la réalisation de cette hypothèse.
Si les marxistes ont raison, à quoi le monde ressemblerait ?
C'est ça. Ouais. En fait, il ressemblerait à 84. Mmh. Et donc, c'est assez effrayant. Et donc, elle ajoute, après tout, donc Judith Schlar, après tout, beaucoup de théoriciens prétendent qu'il en va toujours ainsi. À quoi ressemblerait-il vraiment d'écrire sur le passé et le présent s'il en allait réellement ainsi ? répondre à de telles questions requiert beaucoup d'imagination. Et c'est ce que fait 1984. Mmh. Et là, je trouve ça, c'est une façon de présenter les choses qui me semble assez juste, en fait. Mmh. C'est-à-dire, si, finalement, le monde n'est que ce que les puissants en disent, qu'est-ce que le monde ? Et donc, évidemment, à partir de là, on peut voir qu'il y a énormément de choses qui échappent à une description qui partirait sur de telles bases.
Et si je peux rajouter un point, c'est qu'effectivement, c'est un point qui est très important, ça. Parce que, en fait, ce que nous dit Orwell, en tout cas tel que le lit Conan, c'est que c'est pas simplement que le pouvoir ment.
Non.
C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir ment, certes, mais en fait, ça va au-delà. C'est-à-dire que le pouvoir cherche même à détruire ce qui pourrait permettre de faire une différence entre la vérité et le mensonge. C'est-à-dire qu'il cherche à, effectivement, supprimer les concepts, hein, les idées qui permettent en quelque sorte de faire cette différence entre vérité et mensonge. Ah, ça fait penser, c'est un des textes anti-staliniens de la gauche anti-stalinienne et anti-léniniste les plus célèbres, c'est Le voyage au pays du mensonge déconcertant de Siliga.
D'Anton Siliga, oui.
D'Anton Siliga, qui est un livre remarquable par ailleurs, évidemment. Oui. C'est
Champ libre.
Champ libre, oui.
Ce qu'il chercherait.
Et en même temps, ce que nous dit Orwell, c'est encore autre chose que cela. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dénoncer, si tu veux, les arrangements avec la vérité, dénoncer les mensonges, dénoncer les omissions. Ce qu'Orwell a en tête, c'est l'idée que, au fond, derrière ça, à la limite, c'est de la propagande
classique
des commissaires politiques un peu bas du front. Et alors, évidemment, c'est terrifiant, mais ce qu'il y a d'encore plus terrifiant aux yeux d'Orwell, c'est les conceptions d'intellectuels qui vont rendre cela non seulement possible, mais permanent. C'est-à-dire, effectivement, c'est l'intellectuel, au fond, ce sont des intellectuels qui cherchent à détruire l'idée de vérité objective. Toujours, parce qu'il faut un certain degré de maîtrise des concepts. Il faut repérer aussi les points faibles, les articulations, les failles où effectivement le pouvoir peut détruire ces concepts-là. Et c'est en ça effectivement que on est. Alors c'est pas une insulte de dire ça, mais effectivement c'est pas simplement de la philosophie politique, mais c'est aussi et avant tout peut-être une critique des intellectuels en politique aussi, cette affaire-là. Et c'est pas un détail, c'est pas juste une critique des idéologues ou de quelques petits. Non, parce que d'après Orwell, c'est central. Hein? Et effectivement, il y a des armes, quand on parle du pouvoir de la vérité, c'est que le pouvoir de la destruction de la vérité est tout à fait terrifiant, également.
Complètement. Et alors ça implique aussi, je pense, un autre passage, un autre élément intéressant dans le bouquin James Conant, dans Orwell ou le pouvoir de la vérité, là, qu'on vous présente, c'est la définition du totalitarisme chez Orwell. Qu'il ne faudrait pas limiter, finalement, à un type de régime politique. Parce que pour Orwell, le totalitarisme, alors c'est Conant qui le dit, hein, c'est pas moi, mais je pense qu'il a raison aussi, c'est qu'il ajoute, tel qu'Orwell l'emploie, le terme totalitarisme donc, ne désigne pas simplement une forme de pouvoir politique, mais désigne aussi des stratégies, à la fois pratiques et intellectuelles, alors je reviens un petit peu sur ce que tu disais là à l'instant, qui visent l'abolition de la liberté de penser jusqu'à des degrés inconnus dans les époques antérieures. Et donc, ici, par exemple, il va dire justement que dans les exemples favoris d'Orwell, il y a différentes pratiques journalistiques. Et comme tu disais, par-dessus tout, Orwell va appliquer ce terme aux idées des intellectuels. Et il ajoute, Orwell, on n'a pas besoin de vivre dans un pays totalitaire pour être corrompu par le totalitarisme. La prédominance de certaines idées peut à elle seule répandre une sorte de poison. Donc là-dessus, il y a clairement, comment dire, donc voilà, est-ce que c'est du Orwell ça ? Oui. Oui. Le totalitarisme n'exerce pas son contrôle sur la pensée de manière seulement négative, mais aussi positive. Il ne vous interdit pas seulement d'exprimer et même de penser certaines pensées, il vous dicte ce que vous devez penser. Il crée une idéologie qui sera la vôtre. Il entreprend de gouverner votre vie émotionnelle en établissant un code de comportement. Il met tout en œuvre pour vous isoler du monde extérieur et vous enfermer dans un univers artificiel à l'intérieur duquel vous n'avez plus aucun repère. Et donc, ici, c'est le parti, en 84, qui va vous enfermer dans un univers artificiel à l'intérieur duquel vous n'avez plus aucun repère. Il reprend ces idées-là. Tu voulais dire ?
Oui, non, c'était ce que tu mentionnais à l'instant, c'est qu'effectivement cette idée-là, c'est pas tant le le cœur, la stratégie totalitaire, au fond. Mmh. Alors évidemment, historiquement, Orwell a été confronté à la propagande stalinienne, c'est pas rien, mais aussi à la propagande nazie, à la propagande fasciste ou franquiste en Espagne. Donc effectivement, c'est une période où effectivement la propagande était omniprésente. Donc historiquement, il y a ces effets-là. Mais effectivement, l'intérêt, c'est comme tu dis, il me semble, si je comprends bien ce que dit Conant, hein, c'est que au fond, l'idée de destruction de la vérité objective, l'idée qu'il n'y a pas de vérité objective, n'a pas besoin d'être accompagnée de divisions blindées ou de brassards ou de saluts nazis, etc. C'est-à-dire que on la trouve aussi, y compris au cœur de régimes dits libéraux ou de démocratie représentative. Et évidemment, quelqu'un comme Rorty, qui est la cible de Conant, alors évidemment, Rorty est tout sauf un nazi. C'est tout sauf un nazi, c'est tout sauf un stalinien. C'était quelqu'un qui se revendique du libéralisme, de l'ironie libérale. C'est un philosophe brillant, d'ailleurs, par ailleurs. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui va soutenir, et bon, c'est aux États-Unis, et encore, il le fait avec un brio et des arguments tout à fait intéressants, l'idée qu'il n'y a pas de vérité objective, effectivement, que toujours la vérité est toujours une perspective particulière. Sur les choses.
Il va même un peu plus loin. Pour lui, le terme de vérité, c'est une espèce de félicitation qu'on adresse,
de compliment
qu'on adresse à une idée qui nous plaît tout particulièrement et qui nous plaît à l'intérieur d'une communauté.
Mais pour revenir sur des gens qui sont beaucoup plus proches de nous géographiquement, ou qui ont été beaucoup plus proches de nous géographiquement, c'est évidemment, on retrouve une idée qu'on retrouve dans toute la philosophie, une bonne partie de la philosophie française des années 70, dont on parle assez régulièrement ici, mais tous les auteurs qui ont pu défendre l'idée que la vérité est une construction sociale, c'est un dispositif de pouvoir, un principe d'autorité, etc. C'est-à-dire que la vérité n'a jamais grand-chose à voir avec une réalité extérieure, ou avec des faits, ou avec un contrôle objectif, ou avec des preuves.
Oui, c'est Derrida, il n'y a pas de hors-texte.
Derrida, c'est Foucault, on trouve ça aussi.
Foucault, il n'y a pas fait avec des interprétations, et en fait, on ne peut interpréter que des interprétations, ça c'est un petit texte sur Nietzsche.
Oui, tout à fait.
Vous pouvez aussi avoir Deleuze, sur Proust, par exemple, où il dit un moment très très clairement qu'il est difficile d'arrêter de croire à l'existence d'une réalité extérieure. Ouais.
Alors, c'est plus ou moins assumé, c'est plus ou moins mis en avant selon ce. Mais c'est toute une tradition de pensée dans laquelle effectivement.
Ce qui est vu comme danger, c'est le. Pour eux, le danger, c'est en quelque sorte, c'est le pouvoir qui cherche à imposer une idée.
Dogmatisme.
Une
vérité dogmatique.
Et c'est vrai que. Il y a un danger aussi de ce côté-là, on peut pas le nier. Et c'est clair que. Mais ça, Orwell le montre, et à mon avis, il le montre quand même plus finement. Tous les pouvoirs diront qu'ils sont les détenteurs de la vérité.
Bien sûr.
Les pouvoirs ne diront pas il n'y a pas de vérité. Ils diront nous sommes, c'est nous qui incarnons la vérité. Mais pour pouvoir dire ça, ce que montre Orwell, c'est que au préalable, il faut avoir
détruit l'idée d'objectif.
Ouais. Donc là-dessus.
Et on peut détruire une idée.
Oui.
On peut détruire une idée. On va peut-être faire une pause là-dessus, mais le fait de détruire une idée, c'est quelque chose qui peut. Et on y viendra peut-être. Si tu en es d'accord, mais peut-être sur la dernière partie. L'effet de ça, c'est une autre catégorie qu'on trouve sur Orwell, c'est l'idée de double pensée.
Oui.
L'idée de double pensée, qui est en fait la conséquence et l'état dans lequel l'état visé par le pouvoir totalitaire, c'est-à-dire la capacité de pouvoir soutenir à la fois une chose et son contraire.
Et donc, par rapport à l'idée justement, à qu'est-ce que nous permet l'idée de réalité objective, c'est justement l'idée de vérité objective, c'est justement de pouvoir émettre des jugements de valeur qui ne sont pas uniquement dépendants d'un consensus à l'intérieur de notre groupe. Parce que le consensus à l'intérieur de notre groupe, en réalité, ne nous préserve jamais de l'atrocité. Et donc, là-dessus, il faut toujours un
ordre. Ou de l'erreur, tout simplement.
Ou de l'erreur. Donc, pause musicale et puis on revient.
Soleil, mais tout à coup c'est stop. dépasser.
Salut à tous, c'est Jeudi Noir qui revient sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Alors c'est le dernier temps de cette émission de Jeudi Noir pour aujourd'hui, autour d'un livre de James Conant qui s'appelle Orwell et le pouvoir de la vérité, édité aux éditions Agon en 2012. Alors, depuis le début de l'émission, donc Michel, tu nous présentes ce livre de Conant, qui insiste tout particulièrement sur une certaine lecture de George Orwell, en montrant que plus qu'un auteur très connu pour 1984 et souvent lu comme une espèce de prophète sur les sociétés de contrôle, de surveillance, de numérique, etc. La lecture que propose Conant, c'est plutôt de voir chez Orwell quelqu'un qui critique le totalitarisme comme une entreprise de destruction de l'idée de vérité objective, ce qui va au-delà d'une simple analyse de la propagande des régimes totalitaires ou des pouvoirs politiques en général, puisqu'il y a derrière un projet intellectuel, voilà, presque philosophique, hein, derrière le totalitarisme, qui consiste à essayer de priver les individus ordinaires de leur capacité à faire une différence entre ce qui est vrai ou pas, et d'essayer de chercher à savoir ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui correspond à une réalité qu'on ne décide pas, qu'on ne contrôle pas. Alors, juste avant la pause musicale, là, ce qu'on vient d'écouter, le morceau Réalité du groupe Telex. Donc on est une fois de plus en plein au cœur du sujet, mais juste avant tu disais que il y avait un lien entre ce projet intellectuel de destruction de l'idée de vérité objective qui est propre au totalitarisme, pas simplement les totalistes armés, spectaculaires ou en uniforme, hein, qu'on a connu au XXe siècle et qu'on connaît encore trop souvent, mais que c'est aussi un projet qu'on peut trouver dans des régimes beaucoup plus apaisés apparemment, et dans des courants de pensée beaucoup plus ouverts ou beaucoup plus supposément démocratiques, etc. Il y a un lien entre ce projet, la destruction de l'idée de vérité objective, et les effets que ça peut produire, c'est-à-dire ce qu'Orwell appelle parfois la double pensée, c'est-à-dire l'individu totalitaire total, celui qui est produit par le totalitarisme, hein, et qui en vient du coup à être capable de croire avec exactement la même sincérité et avec autant de conviction vérace, pourrait-on dire, une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a abandonné l'idée de vérité objective, l'idée qu'il y a des faits qui permettent de décider entre ce qui est vrai ou ce qui est faux, eh bien effectivement, on devient complètement capable d'affirmer avec autant de foi, je dirais, une chose comme son contraire. Et au fond, c'est cet homme-là que cherche à fabriquer le totalitarisme.
Alors justement, oui, je vais vous lire un passage d'Orwell où il donne la parole à O'Brien. O'Brien, en quelque sorte, expose ce qu'on pourrait appeler les principes philosophiques.
Alors rappelle qui est O'Brien dans le roman
de 1984. C'est un membre du Parti intérieur, donc il fait partie de la grande hiérarchie, de la nomenclatura du parti du socialisme anglais, de l'ANGSOC. Et c'est celui qui, au début, se présente comme une espèce de révolutionnaire caché et qui va se révéler être un dignitaire et un tortionnaire. Et c'est lui qui va torturer Winston pour le faire revenir dans le droit chemin. Mmh. Et c'est aussi un intellectuel. C'est un philosophe.
C'est avant tout un intellectuel.
Et c'est un intellectuel tortionnaire. Mmh. Et donc, que dit cet intellectuel tortionnaire à Winston quand il est en train de le torturer ? Vous croyez que la réalité est objective, extérieure, qu'elle existe par elle-même. Mais je vous le dis, Winston, la réalité n'est pas extérieure. La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Pas dans l'esprit individuel qui peut se tromper et, en tout cas, périt bientôt. Elle n'existe que dans l'esprit du parti qui est collectif et immortel. Ce que le parti tient pour vrai est la vérité. Il est impossible de voir la réalité si on ne regarde pas avec les yeux du parti. Voilà le fait que vous devez réapprendre, Winston. Il exige un acte de destruction de soi, un effort de la volonté. Vous devez vous humilier avant de pouvoir devenir sensé. O'Brien s'arrêta un instant, comme pour le laisser se pénétrer de ce qu'il venait de lui dire. Vous rappelez-vous, continua-t-il, avoir écrit dans votre journal, « La liberté, c'est la liberté de dire 2 et 2 font 4 ?» Oui, dit Winston. O'Brien présenta à Winston le dos de sa main gauche levée. Le pouce était caché les quatre doigts tendus. Combien est-ce que je vous montre de doigts, Winston ? 4. Et si le parti dit qu'il n'y en a pas 4, mais 5, combien y en a-t-il alors ? Et ici, ça va être le passage, c'est le début où, quelque sorte, O'Brien va essayer de faire en sorte, va torturer Winston, jusqu'à ce que Winston croit avoir 5 doigts quand il n'y en a plus que 4.
Il croit sincèrement.
Qu'il n'y en a que 4.
Et c'est là qu'on est sur, effectivement, la duplicité. Là.
Et c'est là qu'on est dans la duplicité. Et alors, ce passage permet à Conan de montrer quelque chose, à mon avis, d'extrêmement important. C'est que, on pourrait toujours dire, oui, mais, dans le cadre qui est 1984, dans leur conception du monde, il y a 5 doigts quand O'Brien en montre 4.
On a juste changé les règles.
On a juste changé les règles.
Mais ça va au-delà.
Ce que va essayer de montrer Conant, c'est qu'en fait, même dans ce cadre-là, c'est contradictoire. Parce que le parti exige de vous que si, globalement, quelque chose est le cas, vous disiez que quelque chose est le cas. Ceci étant que si le parti ne veut pas que ce soit le cas, vous ne devez pas dire que c'est le cas. Et donc, s'il y a une contradiction entre ce qui est le cas et ce que le parti le dit, vous devez être d'accord avec le parti. Mais vous devez d'accord avec le parti en croyant que ce que le parti dit, c'est ce qui est le cas. En gros, si Lavrov vous dit il n'y a pas d'attaque de l'Ukraine, vous devez croire qu'il n'y a pas d'attaque de l'Ukraine parce que c'est Lavrov qui le dit, mais vous ne devez pas le croire, en quelque sorte, mais vous devez croire que c'est bien le cas. Et donc là, vous avez une contradiction interne, en fait. Vous devez croire que quelque chose est le cas parce que quelqu'un le dit, mais pas parce que quelqu'un le dit parce que c'est le cas.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée de Conan, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui nécessairement doit coincer dans le projet totalitaire. C'est qu'effectivement, le projet totalitaire exige qu'on accepte la vérité décidée par le parti comme si elle était objective.
Donc,
comme si elle était objective.
D'une certaine
alors que justement, elle est décidée par le parti. Et que c'est parce qu'elle est décidée par le parti qu'on doit y croire.
Et qu'on doit nier les faits si le parti nous demande de les nier, ouais. Tout en disant qu'on ne les nie pas.
C'est en ça qu'il y a une forme de contradiction. En même temps, ça nous vaccine pas et ça nous protège pas forcément. Mais il y a quelque chose d'assez effectivement fascinant dans cette analyse là, parce que l'idée d'Orwell, c'est qu'au fond, on n'échappe pas à l'idée de vérité objective. C'est-à-dire que le langage lui-même, d'une certaine manière, a besoin pour avoir un sens, tout simplement, hein, de l'idée de vérité objective. Hein.
Ce serait du Wittgenstein.
C'est lié à ce qu'il dit. C'est-à-dire que si tu veux, tu ne peux pas avoir de langage qui signifie quoi que ce soit s'il n'y a pas de vérité, de concept de vérité objective, permettant de faire le tri entre ce qui est dit ou contesté ou affirmé, etc. Dès qu'on affirme quelque chose,
ça, c'est des débats philosophiques.
Les justifications philosophiques de ça, mais effectivement, on n'échappe pas à ce point-là. Et c'est vrai que c'est un argument qui est très fort, je trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, il suffit pas de. C'est pas simplement de déplorer effectivement les tentatives pour saper. Alors il les dénonce et il les dénonce avec des arguments qui devraient effectivement nous alerter sans doute beaucoup plus souvent qu'on ne le fait, hein, sur l'importance effectivement de pouvoir confronter ce qui est dit avec ce qu'on peut observer ou ce qu'on peut vérifier par nous-mêmes. Ça c'est vraiment quelque chose auquel on devrait sans doute être beaucoup plus vigilant effectivement, y compris quand ça vient de la part d'intellectuels, hein, quand c'est des discours d'intellectuels. Et peut-être avant tout de ce côté-là, mais effectivement, il y a cette idée que cette vigilance, effectivement, que le projet totalitaire a quelque chose de condamné, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire, à moins de, moi, je suis frappé par le passage que tu as lu là sur les accents religieux, en fait, qui a là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une espèce de. Ça fait penser à des textes qu'on a chez Dostoevsky, des textes du Grand Inquisiteur ou des choses de ce genre-là.
C'est les évangiles, c'est saint Thomas.
On a quelque chose qui arrive de la profession de foi. Quoi.
C'est saint Thomas qui va voir Jésus et Jésus lui dit « Toi, tu as le droit de toucher et de voir pour croire, mais ceux qui suivront devront croire en moi sans voir ni toucher. » Là, on est dans le... Voilà.
Alors, en même temps, on est dans quelque chose qui a une dimension religieuse, mais ce qui devient c'est une religion du pur pouvoir. En fait, hein, dans le cas d'O'Brien, effectivement, le totalitarisme est quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est le pouvoir en tant que tel qui doit être adoré en tant que tel, comme s'il était effectivement la seule réalité tangible et productrice de vrai, d'une certaine manière. Comme si le pouvoir se substituait à la réalité, en réalité.
Oui, c'est ça.
Il se substitue à la réalité, et donc c'est lui qui décide, qui permet de décider de ce qui est vrai ou pas. C'est lui qui doit être respecté en tant que tel, comme devrait l'être un fait objectif ou une réalité extérieure. Et alors le problème, c'est qu'effectivement, comme le pouvoir n'est pas fixe, qu'il n'est pas stable et qu'il est provisoire, eh bien il ne peut pas en réalité assumer cette fonction là tout le temps, et qu'il est condamné en quelque sorte à fonctionner par la terreur, ou à se réaffirmer en permanence en quelque sorte. Il y a quelque chose de cet ordre là
et peut-être l'idée d'Orwell derrière, c'est que évidemment, tous les pouvoirs et tous les puissants prétendront toujours détenir les vérités sur le monde. Et pour s'en défendre, il n'y a peut-être pas de pire stratégie que de prétendre qu'il n'y a pas de vérité.
C'est ça.
Je pense que d'un point de vue tactique ou stratégique, si vous voulez, peut-être qu'on pourrait résumer ça à ça. C'est-à-dire, ne vous défendez pas contre le dogmatisme en adoptant une espèce de relativisme ou de scepticisme absolu. Ça ne marchera pas, parce que en fait, les deux positions sont dos à dos.
Et ça c'est un avertissement qui est important, hein, parce qu'effectivement dans l'histoire intellectuelle des 50 dernières années, ça a des résonances, hein, effectivement. Enfin, bon, c'est pas la première fois qu'on en parle ici, mais l'idée que toute vérité est construite est une construction sociale, un dispositif de pouvoir, etc. C'est-à-dire que la vérité n'a jamais rien à voir avec des faits extérieurs, avec une réalité extérieure, est devenue presque une espèce de lieu commun.
Peut-être que de ce point de vue-là, on a pris pour argent comptant ce que nous disaient les gens au pouvoir. Ils nous disaient, nous avons la vérité et nous avons cru. Et on s'est dit que comme ils prétendaient l'avoir, il n'y en avait pas. Donc, on est foutu.
Donc, on se retrouvera.
Tu rappelles peut-être on vous parlait d'un bouquin de James Conant, Orwell ou le pouvoir de la vérité. Sinon, vous pouvez aussi aller lire directement Orwell 1984, et une traduction qui est ressortie récemment aux éditions Agone, qui vaut le coup.
Et on vous laisse avec un morceau du groupe Lié qui s'appelle Truth.
Comme c'est surprenant.